problèmes font partie de notre vie au quotidien et que les solutions, ce n'est pas ce qui manque, Okapi Service vous met au centre de vos préoccupations et fait le relais avec les autorités compétentes pour trouver une solution. Okapi Service, nous sommes à votre service. De lundi à vendredi, dès 9h, heure de Kinshasa.
Bien, de nos jours, les examens prénuptiaux avant le mariage, bien sûr, s'imposent de plus en plus, surtout dans certaines communautés religieuses. Il s'agit généralement des tests du VIH-Sida et de l'électrophorèse pour savoir si les futurs mariés sont, par exemple, séropositifs ou pas, ou bien courent les risques d'avoir des enfants anémiques. Mais dans bien de cas, beaucoup de fiancés hésitent pendant longtemps avant de faire ces examens, ou bien lorsqu'ils font ces examens, on leur dit que voilà, vous êtes incompatibles, alors qu'est-ce qu'ils vont faire au nom de l'amour, si d'ailleurs l'amour est tellement fort, vont-ils se séparer ou pas? Nous allons aborder toutes ces questions avec notre invité Paul Mboula, il est éducateur à la vie. Paul Mboula, encore une fois, bonjour. Examens prénuptiaux, vous avez sûrement entendu parler de cela. Qu'est-ce que ça, parlez-nous de cela. Quand on parle des examens prénuptiaux, de quoi s'agit-il?
Traditionnellement, je commencerai par là. Les examens prénuptiaux sont des examens réalisés par les futurs époux avant de s'unir, avant de vivre ensemble et de réaliser les actes sexuels.
Et pourquoi les pasteurs, les prêtres exigent aux futurs mariés de faire ces examens?
J'éviterai d'en faire l'affaire des prêtres seuls ou des pasteurs, mais ça doit être l'affaire de tout le monde. C'est à cela que nous allons finalement aboutir, parce que c'est très important de connaître l'état de santé de son futur époux et décider conséquemment si l'on doit rester ou accepter de vivre ensemble ou arrêter ou cesser de se marier parce que il y a un danger, il y a des risques sur la santé de l'un ou de l'autre ou de la progéniture. Ce sont des examens qu'on réalise en vue de s'assurer de sa sécurité et de la sécurité de l'autre et la sécurité de l'enfant à venir.
Donc, il y a les pasteurs, il y a même des parents, les parrains aussi qui encouragent les futurs mariés à passer ces examens.
Je pense que ça doit être non seulement la préoccupation de ces grandes personnes, ça doit être la préoccupation des jeunes.
Les jeunes eux-mêmes qui
aspirent au mariage. Ils doivent comprendre que c'est pour leur avenir. Le parrain peut disparaître après votre mariage. Le papa, la maman peut mourir après votre mariage. Mais après, les conséquences, c'est vous qui allez en subir. Regardez, vous n'avez cité que l'électrophoreuse et les tests du VIH. Au-delà de ça, il y a d'autres maladies, comme certaines IST virulentes, comme la syphilis, que l'autre peut déjà avoir développé et qui peut être un germe dangereux pour l'autre qui n'en a pas ou pour l'enfant à naître. L'hépatite B et l'hépatite C posent aussi problème aujourd'hui. Donc on doit vérifier ces éléments-là. Le groupe sanguin fait aussi problème. Regarde, il y a une question du rhésus. Je ne veux pas aborder cette question comme médecin. Je voudrais l'aborder comme sociologue. Pourquoi? Parce que au-delà de ces conséquences physique, il y a des conséquences sociales qui exposent les jeunes à des décisions graves comme les divorces ou un remariage ou un découragement par rapport à ce qui est arrivé, à la décision qu'on a prise à temps. C'est pourquoi je voudrais insister que cette question doit d'abord être développée, doit être posée, doit faire l'affaire des jeunes eux-mêmes. Ils doivent comprendre que
avant que les parents ne leur demandent.
Oui. Ceux-là, parce qu'ils ont compris, peut-être qu'eux-mêmes n'ont pas fait ça, mais ils ont compris aujourd'hui qu'il est indispensable de faire ces examens avant de s'unir. Et c'est comme je disais à l'entrée de jeu, qu'il s'agissait d'une tradition dans la société où
Est-ce qu'à l'époque, les nouveaux ancêtres, avant de se marier, ils allaient faire ces examens-là?
Nos ancêtres n'avaient pas des outils pour réaliser les examens. Mais chez nos ancêtres, à nous, il y avait des familles où on n'épousait pas. Parce que là-bas, il meurt toujours des hommes qui épousent les femmes là-bas. Il meurt toujours les enfants qui sont issus des unions avec les hommes de ce clan-là. Mmh. Ce qui fait que pour nos ancêtres, ils les avaient du flair en se disant il doit y avoir quelque chose dans cette famille qui occasionne la mort, les décès. Alors, il ne faut pas aller épouser là-bas. Et on vous l'a dit avant même de vous engager. Vous cherchez femme, cherchez ailleurs. Un homme vous sollicite, s'il est de telle famille, n'y allez pas. C'était leur façon de vous empêcher de mourir précocement ou de voir vos enfants mourir précocement.
Oui.
Mais maintenant que l'outil scientifique est là, qu'on peut réaliser, qu'on peut prévoir ces risques et ces conséquences fâcheuses,
oui.
Il faudra que les jeunes eux-mêmes comprennent que c'est pour leur bien qu'on est en train de leur demander d'éviter de s'engager à l'aveuglette.
Bien, nous avons déjà en ligne Maître Guilin Douga, il nous appelle de Kinshasa. Bonjour.
Oui, bonjour.
On vous écoute.
Oui, je venais de suivre, n'est-ce pas, votre invité.
Oui.
C'est vrai, il a raison quand il aborde la question sur le plan sociologique. Mais le mariage, c'est une institution organisée par une loi. Et par conséquent, il y a ce que nous appelons les conditions de forme et les conditions de fond. Sur les conditions de forme, tout comme sur les conditions de fond, il n'y a pas, n'est-ce pas, une rubrique réservée aux examens préalables des examens prénuptiaux. C'est vrai, c'est vraiment indispensable parce que j'ai déjà réfléchi autour de cette question aussi. Parce que ça ne servira à rien que nous puissions nous marier et après nous commençons à enregistrer des morts. Mais néanmoins, la loi elle est ce qu'elle est. Est-ce que pour le moment, si nous voulons intégrer quelque chose dans ce sens-là, on risquerait d'être buté, n'est-ce pas, à l'article 13 de la Constitution? Parce que la Constitution dit en son article 13, aucun Congolais ne peut en matière d'éducation, d'accès en fonction publique, ni dans aucune autre matière, faire l'objet d'une discrimination. La discrimination, pourquoi? Supposons qu'on me dit que cette femme, elle est enceinte. Moi, j'ai dit, par ma volonté, j'ai dit, mais moi, je la prends. Mais comment est-ce qu'on peut arriver, n'est-ce pas, à m'empêcher d'accéder à ce mariage au moment où je l'ai voulu? C'est là où nous avons un peu un problème avec le droit. C'est vrai, il est utile, il est tout à fait normal que nous puissions être compatibles pour que nous puissions nous marier, mais à un certain moment, à mon sens, je crois que la loi nous met une certaine barrière, n'est-ce pas, en fonction de tout le principe, n'est-ce pas, de la volonté de tout un chacun, parce que si moi je le veux, personne ne peut me l'empêcher.
D'accord.
Voilà un peu ma contribution à ce sens du débat.
Bien, merci Maître Guilin Douga. Josaphat Kaounia, vous êtes à Kinshasa, bonjour.
Bonjour.
On vous écoute.
Moi, j'ai deux questions capitales.
Ok.
Premièrement, de nos jours, les jeunes s'aventurent trop dans le monde sexuel. Mais est-ce que vous avez pris les dispositions pour chaque fois les sensibiliser qu'à force de s'aventurer trop, il y a des maladies qu'ils risquent d'attraper et que pendant les tests prénuptials, ils risquent de manquer des maris ou des femmes? Est-ce que vous les avez sensibilisées? Et la deuxième question est celle-ci. Ça parle de la stérilité. Souvent, quand on fait les tests prénuptiaux, on n'a pas toujours abordé la question de la stérilité. Et c'est après dans les mariages qu'on vient voir que les maris ou la femme étaient stériles. Et donc, pourquoi est-ce que souvent, la question de la stérilité n'est pas souvent abordé pendant les tests prénuptiaux?
Merci Josaphat. Paul Moula, vous avez la parole.
Merci beaucoup pour Guilin et Josaphat. Josaphat. Nous disons que si la loi est muette là-dessus, mais je ne suis pas juriste, mais c'est que je sais que la loi universelle exige que l'on protège tout citoyen. Et dans ce sens, les efforts de chaque gouvernement, c'est de mettre à l'abri sa population contre tout ce qui peut nuire à sa santé et à sa vie.
Mmh.
Ici, particulièrement, si le code de la famille n'a pas encore mis exigé les examens prénuptiaux, là aussi je vais vérifier, mais il s'agit d'arriver à sécuriser effectivement la population et c'est pourquoi la loi ne devrait pas se taire là-dessus. Et au sujet du contenu du certificat d'examen prénuptiaux, il faudra que la loi puisse également déterminer les limites. Quand, par exemple, on parle de la grossesse, une femme est enceinte et vous faites vos examens, on vous dit que cette femme
est déjà enceinte
et pas de vous. Vous êtes mis devant votre propre responsabilité et vous devez décider en conséquence. De la même manière, j'ai connu des gens à qui on a dit « Votre partenaire est VIH positif et vous ne l'êtes pas. » Alors, c'est à vous de décider.
Vous décidez maintenant.
Et ils ont choisi, ils ont dit, nous nous aimons déjà trop et nous ne voyons pas ce qui nous empêche de nous marier.
Oui.
Et là, les églises que vous avez citées ont pris des dispositions pour amener les gens à s'accepter dans cet amour, mais en même temps, à prendre des dispositions pour préserver également la vie de celui qui n'est pas encore contaminé.
Mmh.
Vous comprenez que la question des examens prénuptiaux s'impose du point de vue scientifique, du point de vue médical, parce qu'il a été démontré qu'il y a des maladies que l'on peut déjà prévenir avant le mariage.
Oui.
Et notre question essentielle ici, c'était quand faire ces examens-là.
Mmh.
Et comme dit le jeune, il faudra que ces examens se fassent le plus tôt que possible. Parce que...
Il ne faut pas attendre quand on a déjà versé la dose. Généralement, les jeunes attendent à ce moment-là, après que la dose soit versée, c'est à ce moment-là qu'ils prennent la décision d'aller
faire les examens. L'amour s'est suffisamment développé, tout le monde en parle, tout le monde sait que...
Mais à quel moment faut-il aller voir le médecin pour
En tout cas, dans les sondages que j'ai osé faire, tous les jeunes m'ont dit, papa, avant même de dire oui à un garçon, la fille doit déjà savoir son état. Avant même de dire non. Oui ou non.
Oui ou non.
Surtout oui.
Oui, bien sûr.
Parce que quand on dit oui, c'est qu'on adhère à la proposition et on veut évoluer ensemble.
Mmh.
Et on ne sait pas, on n'est pas toujours, c'est pas toujours évident qu'on a assez d'énergie pour s'empêcher de s'unir avec un homme qu'on aime déjà.
Mmh.
Ça, c'est ce que beaucoup de jeunes nous disent aujourd'hui. C'est pourquoi le plus tôt serait le mieux. C'est-à-dire, un jeune qui se fait examiner régulièrement peut connaître son groupe sanguin. Ça, il faut pas attendre le mariage pour le savoir. Et si tous les 3 mois, on sait faire son test de dépistage volontaire VIH, on connaît son état sérologique. Et des maladies comme la syphilis, on peut déjà les éviter quand on sait que je suis jeune, je voudrais pas tomber malade ou transmettre des microbes relatifs à des maladies comme ça. Les maladies comme la rubéole peuvent aussi être détectées avant. Donc, du point de vue médical, c'est évident, je dis, tout jeune peut déjà... sans avoir un partenaire, sans avoir envisagé
aller volontairement faire ses examens.
Et si le garçon l'a déjà fait aussi, à deux, on s'est dit, voici ma carte et vous, la mienne est là. On est déjà médicalement disposé.
Mais cela ne nous empêche toujours pas d'aller ensemble voir le médecin.
Oui. Parce que on peut tricher là-dessus.
Ah, bien sûr, vous savez. Ah, bien sûr.
Bon.
on va accueillir Ismaël Moufoy de Lubumbashi. À quel moment faut-il faire les examens prénuptiaux et pourquoi les faire? On en parle avec Paul Mboula, éducateur à la vie. Appelez au 081-890-6394 pour participer.
Radio Okapi encourage les jeunes talents congolais. Auteurs, compositeurs, interprètes, une adresse mail est à votre disposition. musique@radiokapi.net. Envoyez vos chansons. Après sélection, elles feront peut-être partie de la playlist ou d'une émission de Radio Okapi. Faites-vous connaître, des millions d'auditeurs vont écouter votre musique. musique@radiocapi.net. Allez-y, on vous attend.
Nous parlons aujourd'hui des examens prénuptiaux. À quel moment faut-il les faire et pourquoi les faire? Ismaël Mompoy, vous êtes à Lumbashi, bonjour.
Bonjour, je dis Daniel. Bonjour à Paul Moula.
Bonjour. On vous écoute, Ismaël.
Ok. La première des questions, c'est de savoir que tout ce qui peut arriver, mais pourquoi c'est un problème d'écriture et de mentalité, et aussi d'une moralité. Moi, j'espère que les examens prénuptiaux, c'est un examen très important. Tel que comme ça fait partie de l'électrophorèse, et pourtant cet examen devait se faire juste à la naissance. Chaque personne devait présenter sa carte du groupe sanguin, en même temps de son électrophorèse. Pourquoi? Parce que c'est très très important. C'est ce fait que, comme le dit Paul en Hébreu chapitre 13, verset 4, il dit que le mariage soit honoré chez tous. Là, je comprends que l'État et le parent et l'Église devaient être entrés en jeu. Mais qu'est-ce que cela signifie? Et quel est mon commentaire? Et juste que les deux sujets se sont déjà aimés, ils ont déjà goûté au mariage. À quoi encore bon de faire les examens? C'est pour cette raison que je dis que c'est un problème de conscience et d'immoralité. Alors, quel peut être à leur niveau en tant qu'éducateur? Qu'est-ce qu'ils peuvent d'abord faire, eux, les éducateurs, pas lui seul? Qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour lui que tous ceux qui veulent s'engager devait d'abord passer par les examens, c'est-à-dire quel est le chemin faisant et quelle est la stratégie et les méthodes concrètes qu'ils sont en train d'opérer pour lui que tous ceux qui se consultent pour un mariage puissent passer par les examens. Alors, quel conseil il peut donner à tous ceux qui se marient et qui ont déjà eu des accidents, des problèmes pour lui qu'ils ne puissent pas aboutir à des divorces? Quelles sont les démarches qu'ils peuvent faire en vue de détecter la cause? Merci beaucoup.
Bien, bonne journée Ismaël. Revenons d'abord à Josaphat de Kinshasa qui a dit aujourd'hui les jeunes ça, sont très actifs sexuellement et il dit qu'est-ce que vous faites pour les conseiller à se préserver jusqu'au mariage parce que là ils courent beaucoup de risques.
Ils courent beaucoup de risques et notre ami Ismaël vient de le dire, il goûte précocement
au mariage.
Ça veut dire que, au fond, ce qu'on appelle aujourd'hui mariage de forme n'est qu'une conséquence d'une union libre qui s'est déjà réalisée plusieurs
donc
années.
Donc les jeunes ont déjà des relations sexuelles bien avant. Et les jours du mariage, c'est la forme.
C'est la forme.
Ils ont déjà consommé le mariage.
C'est regrettable parce que les conséquences sont nombreuses et fâcheuses, non seulement pour eux, mais c'est aussi pour la communauté. Imaginez que l'on ait de plus en plus des anémiques dans notre communauté. Le coût des soins médicaux vont s'élever et l'activité de ces personnes, vous savez, n'exige pas beaucoup trop d'énergie, sinon ils craquent. Et nous devons arriver à réduire le plus possible cette affaire d'anémie falciforme. Qu'est-ce que nous faisons? Quelles sont les méthodes concrètes comme l'exige notre ami Ismaël? Quelles sont les méthodes pour persuader les jeunes, non seulement moi, mais tous les éducateurs? Au fond, l'éducation de tout le temps a toujours voulu prévenir, donner des outils à la personne, à l'individu qui doit qu'il peut utiliser dans différentes situations de la vie.
Oui.
Et quand on dit qu'il y a un cours de morale, il y a un cours de civisme, il y a un cours de microbiologie, il y a un cours d'études du milieu, tout ça, c'est pour outiller la personne à réfléchir avant de poser n'importe quel acte. Vous savez que papa peut dire, maman peut dire, les éducateurs peuvent dire, mais quand les jeunes se retrouvent à deux, c'est à eux de prendre suffisamment du recul par rapport à la sollicitation de leur. Et nous préparons les jeunes à la responsabilité. Nous
voulons et d'ailleurs, vous encadrez souvent les jeunes
dans votre structure.
Et vous leur parlez
régulièrement de ça. Et le cours d'éducation à la vie qui est généralisé aujourd'hui dans notre pays vise cette responsabilité du jeune qui doit comprendre que non seulement face à la question de la sexualité, mais à toute question de la vie, il faut prendre du temps, du recul, s'arrêter et mesurer l'impact de l'acte qu'on va poser. Si ce n'est pas positif, si ce n'est pas avantageux, il serait bon de s'arrêter et d'éviter de prendre des risques, comme dans le cas ici. Vous rencontrez une personne sans avoir fait des examens et vous vous unissez sexuellement. Mmh. Puis après, vous soulevez contre les parents ou les pasteurs qui vous exigent de faire des examens prénuptiaux. Il y avait des valeurs et c'est cet enseignement de valeurs que nous donnons à travers l'éducation à la vie.
Voilà, il y a certaines jeunes qui se retrouvent devant qui vont faire des examens, hein, les résultats sont là, le médecin qui dit que vous êtes incompatible parce que vous risquez d'avoir vous pouvez pas vivre ensemble, vous pouvez avoir des enfants anémiques. Mm-hmm. Et bon, ils disent au nom de l'amour on continue.
Oui, j'ai entendu dans cette émission un mot qui m'a tiqué, c'est la discrimination. Ici, il s'agit pas de la discrimination. Quand on vous dit que là, il y a un lion, changer de chemin, c'est pas pour, c'est pas de la discrimination. On ne vous empêche pas d'aller vers du bien. On sait que vous prenez des risques. De la même manière ici, on vous prévient parce qu'on vous aime, parce qu'on veut vous aider. C'est pourquoi on vous demande de faire des examens et on vous dit, voilà les conséquences que vous encourez, les risques que vous encourez à épouser tel homme ou telle femme. Et ça vaut à vous de décider. Et si vous voulez bien arrêter votre vie ou avoir une vie difficile ou plein de problèmes, vous engagez, ni l'État, ni l'Église, ni la communauté ne...
Mais il y a beaucoup de couples qui en ont souffert. Et juste après, ils ont eu des enfants anémiques et chaque jour, vous voyez le poids que cela représente, il faut des soins et le couple souffre.
C'est effectivement à ce moment-là qu'elle en dit, si j'avais écouté. Alors, c'est souvent trop tard.
C'est souvent trop tard. Elle, Patrick Ishara nous a écrit des bouquins. Vous, il dit, il est très important de faire les examens prénuptiaux du fait que les jeunes d'aujourd'hui passent beaucoup de temps dans les ambiances. L'un ou l'autre du fiancé peut parvenir à attraper certaines maladies telles que le VIH, SIDA, la blénorragie et autres raisons pour lesquelles les nombreuses personnes n'ont plus confiance entre elles, d'où elles décident d'aller faire passer ces examens. C'est une question de confiance.
Une question de confiance pour aujourd'hui ou pour demain. Parce que, au fond, les examens visent l'avenir. Mmh. Hier, j'ai essuyé les larmes d'une jeune fille qui a été abandonnée par un ancien copain. Bon, avec qui ils sont réellement sortis. Mais si le copain a trouvé qu'il était déjà malade ou qu'il trouvait qu'il y avait des signes qui montrait que la femme ne correspondait pas. Pourquoi est-ce que cette femme pleurait, cette fille pleurait?
Mais alors... Un simple copain...
Un simple copain avec qui sort régulièrement, mais l'autre le balance, il dit non, c'est fini.
Je veux plus de toi.
Non, elle a pleuré pendant des jours et des semaines. Donc comprenez que ici il s'agit de la confiance. Quand on fait allusion à la confiance, il s'agit de vérifier si... effectivement, cette confiance a des sous-bassements solides. Mmh. Le mariage, effectivement, est bâti sur la confiance. Quand on sort, on laisse l'autre, quand on se sépare, on laisse l'autre. On doit développer cette confiance en croyant à la fidélité. Mais on ne peut pas parler de fidélité pour des gens qui ne sont pas mariés. Donc on ne peut pas s'assurer que l'autre a vécu correctement toute sa jeunesse. Même si cela a été, mais il y a des maladies qui exigent nécessairement des examens pour être sûr que l'autre n'a pas de problème. C'est pas un soupçon.
Oui, c'est pas... D'accord. Madame Pacifique nous appelle de Kinshasa, bonjour. Madame Pacifique, bonjour.
Bonjour, je dis bonjour à l'invité.
Bonjour. On vous écoute.
Moi, j'ai un petit témoignage sur ça.
Oui.
C'était une famille, c'était un monsieur qui est docteur, qui a voulu marier sa nièce à un monsieur qui avait des sous, il y avait des moyens. Et à un certain moment, ils ont voulu faire le test prénuptial. Quand ils l'ont fait, le docteur qui a voulu marier sa nièce a constaté que ça n'ira pas. Alors, pourvu qu'ils aient des sous, il a exigé que ça puisse se passer comme ça. Il a exigé que le mariage puisse se passer. Ils se sont aimés et après, 10 ans après le mariage, c'est une naissance qui est normale, une naissance anémique. Une naissance normale, une naissance anémique. Donc, dans tout enfant, 4 enfants anémiques, enfants qui est normal, qui sont normales.
Mmh.
Et là, maintenant, les enfants qui meurent, parce que là, c'est déjà 2 enfants qui sont là, et les 2 autres, nous attendons leur tour. Donc, moi, je voulais dire ceci. Toutes les raisons que les gens avancent, c'est bien. Mais en ce qui concerne le mariage, c'est la conscience qui travaille. Parce que moi, je me disais que je peux aimer aujourd'hui, mais je me dirais oui, que quand le test sera positif. Alors, si le test a montré que c'est difficile de nous marier, il ne sera pas, ça va retourner. Hein. Donc, je dirais que le test. Donc, ça, c'est de moi que je me disais.
D'accord, merci Madame Pacifique. Dorcas, vous êtes à Lubumbashi, bonjour.
Bonjour Jody, bonjour à Monsieur Paul Poula, bonjour à tous les auditeurs que nous auditionnons depuis la toile.
Bonjour, on vous écoute.
Oui, en tout cas, personnellement, j'apprécie ces sujets et l'invité a totalement raison. Mais il y a un grand problème, les jeunes sont mal enseignés et ils sont mal enseignés concernant ces sujets. Pour eux, ils croient que c'est, on le veut pas du bien. Et surtout, du côté de la fille, dès qu'on l'envoie d'aller faire les examens prénuptiaux, pour elle, c'est une façon de débarrer ou de ne pas aimer que ces mariages aboutissent. J'ai reçu quelques témoignages. Je connais une famille qui est des jeunes couples qui se sont mariés.
Oui.
Et ils n'ont pas pu faire les examens prénuptiaux. Et dès leur premier né, ils ont 7 enfants. Tous ces enfants sont des anémiques. Et comme dit-on que si un enfant anémique atteint 20 ans ou 25 ans, il échappe à la mort. Donc il échappe à la mort comme les gens le disent. Mais leurs enfants meurent après 25 ans. Donc ils atteignent 20 à 25 ans, ils meurent. En tout cas, je remercie la radio Papi pour ce genre d'émission qui peut susciter plus une conscience de jeunes qui soient hyper connectés. Et je demanderai à l'invité, à tant que...
Éducateur.
Éducateur, vous laisse dire.
Oui.
Quel conseil tu peux donner à ces jeunes qui sont mal appris, qui sont mal enseignés? Et à ce jeune-là, si leurs examens prénuptiaux sont négatifs, ils protestent à cause de leur amour. Merci à tous.
Bien, merci Dorcas Paul Moula.
Oui, merci beaucoup, Madame Pacifique. C'est un très bon témoignage. Il est évident que si on va à l'aveuglette pour une question aussi importante que le mariage... On regrette plus tard, comme Dorcas le dit aussi. Pour les jeunes, nous avons toujours montré l'importance d'attendre le mariage. Non seulement parce qu'il y a des maladies, parce qu'un parent qui aime bien sa fille, qui aime bien son fils, a intérêt à faire certains examens régulièrement pour s'assurer que l'enfant ne connaît pas de problème, connaître son groupe sanguin, comme son état sérologique ou son état d'anémie, n'exige pas nécessairement le mariage. Ça peut se faire tôt, comme on l'a dit ici. Ce qui pose problème, s'il y a problème, c'est le désir sexuel. Il apparaît avec une certaine violence à l'adolescence que l'on voudrait à tout prix expérimenter. Mais expérimenter avec qui on n'a pas encore mesuré. On peut attraper l'hépatite B ou C, l'hépatite virale. On peut l'attraper chez une personne qui l'a, parce que c'est sexuellement transmissible. et la personne jeune que vous croyez peut déjà avoir cette hépatite et vous la transmettre. Vous allez regretter plus tard quand, à 50 ans ou à 55 ans ou même à 60 ans, quand vous ferez les examens, quand vous aurez les moyens pour faire vous-même les examens, que vous allez finalement réaliser que vous êtes déjà atteint, malade et vous pouvez précipiter votre mort.
Madame Pacifique nous a parlé de ce médecin, connaissant bien, il a fait des examens, mais il a préféré fermer les yeux.
Oui, mais...
pour marier sa nièce à quelqu'un qui a des moyens, et plus tard, ils ont eu des enfants anémiques qui mouraient l'un après l'autre.
Ismaël a parlé des cultures, de la mentalité et de la moralité. Hein? Ce sont des mots-clés qui nous déterminent également dans le comportement. Mmh. Mais le travail que nous avons à faire aujourd'hui, c'est celle de la dynamique sociale. Pousser les amis à comprendre que moi, je dis je le fais, ça n'a apporté aucun préjudice, parce que après avoir réalisé le test, j'ai trouvé la femme qu'il me fallait. Si dans nos églises, en dehors des témoignages...
Avec votre femme, vous avez passé ces tests?
Bien sûr, oui.
Oui.
Alors, si dans nos églises, nous faisons des témoignages comme ça, que moi, je l'ai fait, mon pasteur l'a dit aussi, le diacre le dit, et puis on réalise que certains couples qui évoluent bien dans l'église sont en train... l'ont fait, rassurez-vous, je dis que ça va évoluer rapidement et la mentalité va changer. Et les gens croiront que ce n'est vraiment pas du mal. Parce qu'ailleurs, ça se fait. Mmh. Hein, les gens le font par tradition. Pourquoi est-ce que cela ne peut pas devenir également une tradition?
Et si vous faites les examens, on vous dit, on vous donne les résultats, vous êtes incompatible, vous ne pouvez pas vous marier.
Oui, à quel moment, on revient à la question, à quel moment vous réalisez vos examens? Si c'est tout proche, si c'est à une semaine de...
Vous avez déjà distribué les invitations pour que les gens viennent à la fête.
Et vous allez vous faire examiner, vous dit qu'il y a incompatibilité. Mais vous tombez malade. Vous tombez malade et vous êtes dans l'embarras de choix parce que vous êtes déterminé à réaliser votre projet parce que vous avez évolué longtemps ensemble. Mmh. Donc le plus tôt, comme nous l'avons dit, dès que l'autre vous sollicite, je pense que c'est le meilleur moment de se dire est-ce que c'est compatible notre mariage? Parce que les fiançailles consistent en cela. Vérifier si la vie à deux peut réussir. Mmh. La vie à deux ne réussira pas seulement du point de vue amoureuse, mais ça peut être également sur la question de la santé, sur la question de coutumes, sur la question des croyances. Je sais que le mariage est rare aujourd'hui pour certaines filles qui ont attendu longtemps, mais cela ne veut pas dire qu'après avoir pris assez de temps pour attendre, vous ramassiez n'importe quoi. Donc, il faut, en toute conscience, choisir la personne qui est compatible à tout point de vue.
Bien, merci Paul Mboula. Je rappelle que vous êtes éducateur. Merci
c'est moi qui
d'avoir répondu à notre invitation et bonne journée.
À vous autant.